Bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour Nicolas.
Un reportage sur le sauvetage de Daesh au moment de la chute de Raqqa.
C'est un reportage, une exclusivité que vous trouverez sur le site internet de la BBC. Titre du reportage, The Dirty Secret, le sale secret de Raqqa. Ça raconte, j'adore les termes britanniques, l'exode de ce qu'on appelait l'État islamique, clairement. Comment l'armée de Daesh a été évacuée le 12 octobre dernier par camion quand sa capitale était en train de tomber suite à un accord passé avec les libérateurs des forces démocratiques syriennes qui voulaient limiter les dégâts humains. La BBC a retrouvé des camionneurs qui avaient mené l'évacuation, qui se sont retrouvés en train de transporter, je cite, des centaines de combattants, des tonnes d'armes et de munitions. C'est un reportage complet. La BBC raconte et montre avec des images exclusives des files de camions qui défilent dans le désert. Démonstration de journalisme complet avec une exclusivité et aussi le rappel d'une menace parce que, écrit la BBC, des combattants étrangers aussi ont été évacués et les Britanniques ont retrouvé un Français qui se fait appeler Abou Bassir Al-Faransi. Le Français, je cite, « Certains de nos frères français sont repartis vers la France pour mener des attaques, dit-il. On reste avec ce qui est peut-être une vantardise de combattants perdus ou bien un danger qui ne nous surprend même plus. »
Les menaces, Claude, les menaces sur la planète maintenant dénoncées par 15 000 scientifiques.
Dans un appel dont nous avons parlé, que l'on peut lire en intégralité sur lemonde.fr et dans le monde papier, il faut, Nicolas, en passer par l'écrit pour bien intégrer l'état de la catastrophe planétaire, surpopulation, déforestation, reprise des émissions carbone et le monde ajoute disparition des insectes. Il faut aussi lire pour bien pénétrer le ton prophétique de l'appel. Mise en garde des scientifiques à l'humanité, deuxième avertissement. Le premier datait d'il y a 25 ans et nous promettait de grandes misères humaines si nous n'opérions pas un changement profond dans notre gestion de la Terre. Eh bien, rien n'a suffisamment changé, nos progrès sont insuffisants. Je cite l'appel, nous poussons les écosystèmes au-delà de leur capacité à entretenir le tissu de la vie. En bon français, nous mettons la vie en danger. Et ces mots de scientifiques résonne comme ces paroles que le prophète inscrit sur les murs dans les récits bibliques et cela dit un état de la conscience. Dans la dépêche, le photographe et militant de la Terre, Yann Arthus Bertrand, raconte une rencontre qu'il a eue il y a quelques jours avec des collégiens. D'un coup, il y en a un qui m'a demandé « Monsieur, c'est quand la fin du monde ?» Je lui ai répondu que je n'y croyais pas, mais j'ai demandé à tous ces collégiens, combien croyaient à la fin du monde ? Eh bien, 70% des bras se sont levés, ils n'ont pas peur, c'est une acceptation. 7 enfants sur 10 acceptent la fin du monde. Que fait-on, Nicolas, de cela ?
Mais les journaux, Claude, ont quand même quelques solutions pour le sauver, ce monde.
Alors l'adulte septuagénaire Yann Arthus Bertrand, toujours dans la dépêche, croit en l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut sauver le monde. On le regardant avec moins de cynisme, les savants de l'appel des 15 000 sont plus durs et plus concrets. Ils réclament ceci, je cite, « Réduire encore le taux de fécondité en faisant en sorte qu'hommes et femmes aient accès à l'éducation et à des services de planning familial. Ça passe, c'est du volontariat. Mais il y a cela ensuite, je cite encore, « Déterminer à long terme une taille de population humaine soutenable et scientifiquement défendable » tout en s'assurant le soutien des pays et des responsables mondiaux pour atteindre cet objectif vital. Clairement, c'est un appel à une coercition mondiale de la part des gouvernements au nom de l'espèce. Et là, Nicolas, nous avons un débat moral et démocratique auquel nous n'échapperons pas.
Et puis on nous demande aussi, Claude, de manger autrement.
Ce qui a l'air plus simple, mais ne l'est peut-être pas. Oui, on nous demande de réorienter notre régime alimentaire vers une nourriture d'origine essentiellement végétale. Encore les mots de l'appel des 15 000. La viande serait donc l'ennemi. Sur internet, dans Uzbek Erika, vous avez ce constat. L'empreinte écologique des producteurs de viande équivaut à celle de l'Allemagne. C'est l'étude d'une ONG qui soutient l'agriculture de proximité, on l'appelle Grain. Elle joue des comparaisons, elle désigne des ennemis. JBS, un géant brésilien de la production de bœuf. Tyson, non pas le boxeur, mais un producteur de poulets, bœufs et porcs américains. Et Cargill, gros fournisseur d'ingrédients alimentaires. À L3, ces entreprises relâchent autant de gaz à effet de serre que la France. La viande industrielle, voilà donc l'ennemi. Mais une fois que je vous dis cela si vite, je me demande ce qu'entendent les gens et ce qu'entendent ceux qui vivent de la viande au quotidien. Dans le journal Le Bien Public, j'ai lu 2 pages en faveur, en défense de la filière viande. Ça ne parle pas du tout de réchauffement climatique, mais d'un soupçon sanitaire lancé par le Canard Enchaîné qui affirmait en octobre que de la viande contaminée par la tuberculose bovine pouvait finir dans nos assiettes. Réponse de la profession, non, on ne joue pas avec la sécurité des consommateurs. Je cite une éleveuse de la Confédération paysanne. En France, plus de 99% des cas de tuberculose chez les humains sont dus à la souche humaine de la maladie. Je suis outré, dit cette femme, Émilie Janin, de lire que des vaches abattues sont infectées. Et je découvre dans le bien public ce que subissent déjà des éleveurs au nom de notre santé. En Côte d'Or, cette année, 120 000 bovins ont été testés à la tuberculose. 1100 ont réagi au test, 498 ont été abattus. Vérification faite, la maladie n'avait touché que 3 bovins. Et je pense à ces éleveurs à qui on a tué près de 500 animaux, à qui je racontais ce matin qu'ils étaient aussi responsables de la fin bientôt de l'espèce.
Et pour finir, Claude, grandeur et décadence d'un géant de l'industrie.
General Electric qui va s'infliger, disent les échos, une cure d'austérité drastique pour relever une action défaillante. Petite inquiétude au passage, grosse inquiétude. GE, General Electric, est aussi une entreprise française qui a racheté les activités énergie d'Alstom et ce rachat a déçu les Américains. L'Est républicain raconte les perplexités des employés de General Electric à Belfort et cette perplexité contraste avec l'arrogance passée de l'entreprise. C'est à nouveau dans les échos quand son PDG, Jeff Immelt, pour ses déplacements dans le monde, était suivi par un deuxième avion vide pour le cas où le premier aurait été en panne. À chacun sa mémoire et ses splendeurs. Et à propos de mémoire, vous lirez dans l'Humanité la visite de Stéphane Bern, monsieur patrimoine du président de la République, au musée de l'histoire vivante de Montreuil. On apprend qu'une mémoire se perd en France, la mémoire ouvrière. La maison de Henri Barbus à Aumont, Barbus écrivain du feu, et celle de Jean Jaurès à Quatre sont menacées. Nous perdons un peu de nous-mêmes tous les jours.